journal, Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, les conséquences du dérèglement climatique, c'est concret et c'est ici. Situation sanitaire dégradée dans les années à venir en Provence, Alpes, Côte d'Azur à cause du changement climatique. Nouveau rapport sur le sujet, détail dans une seconde. La forêt française s'est-elle remise des énormes tempêtes qui l'avaient frappée il y a 20 ans exactement, décembre 99, près d'un million d'hectares avaient été détruits. Notre invité est le directeur adjoint de l'Office national des forêts, François Bonnet. La Syrie, des dizaines de milliers de personnes ont pris la route de l'exode pour fuir les combats et les bombes dans la région d'Idlib. 4 millions de personnes vivent dans cette région qui est un cul-de-sac. Le médecin humanitaire Raphaël Pitti est très alarmiste sur France Inter.
Je n'appelle à tous vos auditeurs pour qu'ils comprennent la situation telle qu'elle peut être pour cette population-là qui subit ces bombardements, qui ne peut pas être ravitaillée, qui commence à avoir faim, qui pose des problèmes de santé, qui cherche un espace pour pouvoir se protéger. C'est une catastrophe humanitaire qui est en train de se dérouler sous nos yeux.
Nous l'entendrons plus longuement tout à l'heure. L'actualité internationale, c'est aussi la Turquie qui s'apprête à envoyer des troupes en Libye. Le conflit risque de prendre de l'ampleur. Dans ce journal encore, la réforme des retraites est-elle en train de perdre une partie de son sens au gré des concessions? Les pilotes obtiennent de pouvoir partir à taux plein des 60 ans. C'est le 22e jour de mobilisation et dans ce contexte social tendu, une réforme est reportée de 3 mois. Le nouveau calcul des allocations logement n'entrera en vigueur que le 1er avril. Une bonne nouvelle dans le domaine économique, beaucoup de création d'emplois cette année, nous détaillerons cela. Ils veulent me faire taire, Ségolène Royal à l'offensive, alors que deux députés lui demandent des comptes sur son poste d'ambassadrice des pôles. À 13h30, ce sera la Terre au carré. Bonjour Élodie Font.
Bonjour.
Un chiffre au cœur de l'émission aujourd'hui.
Oui, 1 million d'espèces végétales et animales menacées d'extinction. Que faire pour inverser la tendance? Nous recevons Franck Courchamp, directeur de recherche au CNRS, pour parler du déclin de la biodiversité. Vos questions, vos réactions au 01 45 24 7000.
Et les questions, c'est tout de suite. L'émission à 13h30. Avant cela, un plaisir. Le tour des spectacles à ne pas manquer en cette fin d'année. Bonjour Stéphane Capron.
Bonjour Bruno.
Ce sera avec vous.
Et oui, on s'évade au rythme des grands ballets classiques, mais revisité avec les imaginaires de Jules Verne, de Méliès, mais aussi avec un peu de hip-hop. Il y a aussi des comédies musicales inédites en France en cette fin d'année.
Nous sommes impatients. À tout à l'heure, le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Chaque année, chaque mois, les conséquences du dérèglement climatique deviennent un peu plus directes et concrètes. Cela ne se passe pas à l'autre bout du monde, mais en France, en Provence-Alpes-Côte d'Azur précisément. Le groupe d'experts régional sur le climat publie un rapport sur les conséquences du dérèglement climatique pour la santé des habitants. Et le tableau pour les années à venir est loin de la carte postale de la Provence idyllique. En 2040, en PACA, les températures pourraient être de 2 à 3 degrés supplémentaires par rapport à la révolution industrielle. Température plus élevée qui favorise les pollens, les acariens, les bactéries, les moustiques vecteurs de maladies et en même temps l'humidité liée aux jours de pluies intenses qui risquent de se multiplier et le développement de moisissures dans les maisons. Cet automne, deux épisodes méditerranéens ont provoqué la mort de 13 personnes et des inondations importantes dans le sud-est. Alors à propos de ces moisissures après la pluie et les conséquences sanitaires, reportage à Pertuis dans le Vaucluse. Mathilde Vinceneux, vous êtes retournée dans une ferme inondée cet automne.
Dans ce corps de ferme divisé en trois maisons, l'eau a défoncé le portail. Elle est montée jusqu'à 1,20 m au rez-de-chaussée de Jean-Luc. Il vient à peine de finir le nettoyage et maintenant, il s'inquiète des traces noires qui grandissent sur les murs de sa cuisine.
Oui, on voit bien les traces, vous voyez là ? Vous sentez là ? C'est pas clean, mais bon, on peut rien faire, comment faire ? Vous savez, c'est des maisons anciennes ça, avec des pierres et de la terre.
Alors l'eau s'est probablement infiltrée dans les murs. Et ça ne sera pas facile de les sécher, même pour Frédéric, qui habite lui au premier étage.
Je chauffe en permanence pour assécher au maximum, mais bon, j'ai quand même toujours un peu des remontées dans le garage. On voit le sol n'est pas sec.
Pour l'instant, pas de traces de moisissure chez lui.
Est-ce que ça va sortir peut-être plus tard ou dans les semaines encore à venir, je ne sais pas.
La question se pose surtout parce que sa fille de 2 ans est très sensible.
Elle a des problèmes d'asthme et elle est beaucoup sujette à la bronchiolite. Ça a surveillé, mais bon, de toute façon, elle a un traitement qui est sur du long terme.
Surveiller les symptômes, l'humidité et la moisissure comme une inquiétude de plus alors que le traumatisme des inondations est encore là.
En Provence, Alpes-Côte d'Azur, traumatisée par les inondations et hotspots du changement climatique, voilà pour ce rapport. Il y a 20 ans, c'est toute la France qui subissait un terrible épisode de tempête. 26, 27, 28 décembre 99, à la veille de l'an 2000, les tempêtes Lothar et Martin faisaient 92 morts, emportaient une bonne partie du réseau électrique, 10 millions de personnes à la bougie, et ravageaient une bonne partie de la forêt française, de la Bretagne à l'Alsace, de la Lorraine au sud-ouest. Près 1 million d'hectares de forêt avaient été touchés, 3 ans de récolte. La forêt française, c'est près d'un tiers du territoire. Est-ce qu'elle s'en est remise 20 ans après ? Bonjour François Bonnet.
Bonjour.
Vous êtes le directeur adjoint de l'Office national des forêts. Merci d'être en direct sur France Inter. Avant de vous interroger, Monsieur Bonnet, je vous propose d'écouter un reportage souvenirs et conséquences de cette tempête dans une région particulièrement touchée à l'époque, la Moselle. C'est un reportage de Cécile Soulet de France Bleu Lorraine.
À Brechevillers, un arbre sur deux est à terre, balayé par la tempête du siècle. Dans la commune voisine, à Trois-Fontaines, le maire Sébastien Hornsperger se souvient, 20 ans après, des dégâts impressionnants.
Les arbres tombaient comme un château de cartes. Impressionnant à voir. Parce qu'il y avait des grands sapins à l'époque, puis tout était couché par terre. C'était les chemins étaient inaccessibles, mais c'était... Un vrai désastre.
Même constat à Saint-Quirin et Valchaille. Dans une journée, c'est l'équivalent de 7 ans de travail qui est détruit. Jean-Pierre Masseret, l'ex-président de la région Lorraine, à l'époque secrétaire d'État à la Défense, survole quelques jours après en hélicoptère les forêts mosellanes et témoigne sur France 3.
La forêt Lorraine représente 6% de la forêt française. Mais les dégâts de la forêt Lorraine représentent 25% des dégâts enregistrés au plan national. C'est dire que nous sommes singulièrement et profondément touchés.
20 ans après, la forêt s'est régénérée, elle a repoussé, mais on n'est pas encore revenu au niveau de 1999. Les arbres ne sont plus aussi imposants aujourd'hui, ce qui rassure quelque part le maire de Trois-Fontaines.
On n'a plus vraiment de grands arbres sur Trois-Fontaines par rapport à tout ce qui est tombé à l'époque-là, donc on les redoute moins, les tempêtes.
Voilà pour la Lorraine. François Bonnet, directeur adjoint de l'ONF, on vous retrouve. La forêt mosellane s'est régénérée, mais on n'est pas revenu au niveau de 99, nous dit Cécile Soulet. Qu'en est-il globalement de la forêt française ? Est-ce qu'elle s'est remise de la tempête d'il y a 20 ans ?
Alors, comme vous l'avez dit, c'était un traumatisme très important pour les forestiers qui ont vu des décennies de leur travail, de générations de forestiers anéantis, avec plus d'1 million d'hectares sinistrés et plus de 200 000 hectares complètement rasés. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que 20 ans après, ces forêts ont été régénérées, mais la forêt est plus jeune, plus rajeunie, du fait de ces reboisements et de ces replantations.
Elle est moins dense aussi. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, au fond ?
Alors, elle est surtout un peu plus diversifiée parce que au moment de réfléchir à la reconstitution des forêts, l'ONF a pris un parti, celui de la régénération naturelle et de la diversité. Alors, à l'époque, ça nous a été assez reproché, c'était une option un peu critiquée. Aujourd'hui, on l'assume pleinement. Je pense qu'on peut être fier du résultat. Sur les seules forêts publiques, les forêts domaniales et les forêts communales, c'est 100 000 hectares. Plus de 100 000 terrains de foot qui ont été régénérés. Et 65% ont été régénérés naturellement. C'est-à-dire que les forestiers ne se sont pas précipités pour replanter, mais ils ont observé la nature, accompagné la nature. Vous savez que la règle d'or du forestier, c'est d'accompagner la nature. On a laissé les semis pousser, on a observé. Et là où la forêt se reconstituait, on a accompagné la régénération naturelle. Et je crois que c'est important par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Les forêts sont victimes de nouvelles menaces, oui. Notamment d'autres effets de changement climatique. Et avoir des forêts plus diversifiées, ça permet d'avoir des forêts plus résistantes à toutes les menaces qui se profilent.
Pourquoi plus résistantes ? En quoi diversification et résistance ? Où est le lien ?
Parce que une seule essence, elle peut être sensible à certaines maladies. Oui. Quand vous avez une forêt homogène, elle est avec des arbres du même âge, elles peuvent être beaucoup plus sensibles aux tempêtes. Avoir une forêt diversifiée, avec une mosaïque de peuplement, avec un mélange d'essences, permet d'avoir des peuplements, des forêts beaucoup plus résistantes à toutes les menaces et à tous les aléas qui se profilent. Et les menaces d'aujourd'hui, alors les tempêtes, elles restent potentiellement présentes, mais se rajoutent de nouvelles menaces vis-à-vis de nos forêts, notamment l'effet du réchauffement qui fait se développer des nouveaux parasites qui menacent nos forêts. Le réchauffement, c'est aussi des dépérissements avec le manque d'eau. On a des espèces, et on le vit aujourd'hui dans le Grand Est, on a ce que l'on appelle une tempête silencieuse qui est tout aussi impactante, tout aussi grave que la tempête que nous avons connue en 99, qui se traduit par des dépérissements de forêts. Vous avez près de 100 000 hectares actuellement de forêts qui sont en train de mourir sous l'effet de la combinée, de la sécheresse et d'attaques de parasites. C'est une nouvelle menace, une nouvelle tempête silencieuse qui suscite moins d'émotions aujourd'hui, mais qui est tout aussi grave et qui a toutes les chances de se poursuivre dans les années à venir.
Et est-ce qu'on sait lutter contre cette tempête silencieuse, François Bonnet ?
Alors, la première urgence, comme on l'a fait il y a 20 ans avec les tempêtes Lothar et Martin, c'est d'exploiter, de sécuriser les forêts, d'exploiter les forêts. Ce sur quoi j'aimerais insister, c'est sur le fait qu'une forêt fragilisée, c'est une forêt dangereuse. Je souhaite rendre hommage à ces forestiers de terrain, aux bûcherons, qui hier, il y a 20 ans, aujourd'hui, dans le Grand Est, exploitent les forêts dans des conditions difficiles et parfois en exposant leur vie. Donc, je rappelle qu'une forêt fragile, une forêt fragile par les tempêtes, par les dépérissements, c'est une forêt dangereuse. Il faut absolument respecter les règles de sécurité et penser aux professionnels de la forêt qui œuvrent aujourd'hui comme ils ont agi hier. Ensuite, après avoir exploité, après avoir nettoyé la forêt, il faut penser à nouveau à la reconstitution. Et il va falloir penser à la reconstitution de ces 100 000 hectares qui sont en train de dépérir. Et alors, à la différence d'il y a 20 ans, je crois qu'on a aussi une deuxième menace qui limite la capacité à régénérer les forêts. Aujourd'hui, contrairement à hier, c'est l'augmentation des populations de grands cervidés, de cerfs, de chevreuils, de sangliers. En 20 ans, ces populations de grands angulaires ont été multipliées par près de plus de 20. Donc si on a pu régénérer naturellement les forêts il y a 20 ans, aujourd'hui, raisonner le renouvellement des forêts là qui sont en train de dépérir, et ben on le fait dans un contexte différent avec un facteur limitant qui est le niveau de ces populations d'ongulés.
Comment se fait-il qu'ils se soient autant propagés?
Parce qu'on a une dynamique de population qui fait que et la pression de la chasse n'a pas été suffisante pour limiter. Et après la tempête aussi, le fait d'ouvrir de grands espaces avec beaucoup de broussailles a offert des gîtes et du couvert pour ces animaux qui ont pu se développer. Merci. Donc là aujourd'hui on a ce défi là. Si on veut régénérer la forêt, avoir une forêt vivante qui se régénère naturellement il faut qu'on retrouve un équilibre entre la forêt et les grands animaux, et on aura besoin des chasseurs pour cela.
Merci François Bonnet d'être intervenu en direct sur France Inter 20 ans après ces deux tempêtes, Lothar et Martin. Allez, une bonne nouvelle en cette fin d'année. Dans le domaine économique, le bilan dressé par l'INSEE, 260 000 créations de postes en 2019 en France, c'est nettement plus que l'année dernière, 70 000 postes de plus. Et avec un chômage à 8,5%, le taux de chômage est au plus bas depuis la crise économique de 2009. Commentaire d'Éric Ayer, le directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de création d'emplois, et ce d'autant plus que l'activité aurait moins accéléré en fait qu'en 2018, donc avec moins de croissance économique, on aurait créé plus d'emplois, donc c'est la bonne surprise. Alors l'explication principale, c'est la transformation du CICE en baisse de cotisation. Globalement, on peut se rendre compte que les chefs d'entreprise perçoivent les baisses de cotisation vraiment comme une baisse du coût du travail, donc c'est sans doute l'explication principale. Globalement, si l'on regarde le flux dans les embauches, ça reste essentiellement des contrats courts, ça reste essentiellement des contrats de moins de un mois, donc il faut avoir cette statistique en tête. 86% des embauches aujourd'hui sont en CDD et les deux tiers en CDD de moins de un mois. Donc effectivement, on peut se rendre compte de la précarité de ces embauches.
Un propos recueilli par Cyril Ardot. Les mêmes règles pour tout le monde, un régime universel, fini les exceptions. Cet argument du gouvernement pour défendre la réforme des retraites est-il en train de s'effriter? On apprend que les pilotes, hôtesses et stewards, cette semaine, ont levé le préavis de grève qu'ils avaient déposé pour le 3 janvier. Bonjour Manuel Ruffez.
Bonjour.
Après négociation avec le secrétaire d'État au transport, ils ont obtenu pour Noël le maintien de certaines spécificités dans leur régime, caisse particulière de retraite complémentaire et la possibilité de partir à taux plein dès 60 ans.
Oui, ça faisait des mois que les pilotes, hôtesses et stewards négociaient leur régime de retraite en vain, jusqu'à menacer de se mettre en grève à partir du 3 janvier. Et tout s'est débloqué la veille de Noël avec très certainement une volonté du gouvernement d'éviter à tout prix un effet boule de neige des mouvements de grève dans les transports. Donc les préavis sont suspendus. Les pilotes vont garder leur caisse de retraite complémentaire et vraisemblablement un âge de départ à 60 ans à taux plein et sans décote. Quant au PNC, personnel navigant commercial, même configuration, avec le maintien de leur caisse de retraite complémentaire et une entrée très progressive dans le système de retraite universel. Seuls les hôtesses et stewards nés à partir de 1987 seront concernés, avec une remontée progressive de l'âge de départ de 55 à 60 ans. Donc pour l'instant, la grève dans les airs est évitée. Les syndicats ont à nouveau rendez-vous avec les ministres concernés, transport et retraite, le 10 janvier prochain.
Alors le projet de régime universel est-il en train de virer aux millefeuilles de régime particulier? En tout cas, c'est un angle d'attaque pour la droite. Écoutez Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais.
C'est évident, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la boîte de Pandore est ouverte, où chaque profession, chaque branche négocie son propre régime particulier, chaque branche va vouloir également rentrer dans cette discussion, menacer de faire grève, menacer de bloquer la France. Et donc, au final, on s'aperçoit qu'une fois de plus, cette proposition de passage à régime universel, régime par points, fait qu'on arrive à cette extrémité où chacun veut son propre régime dérogatoire. Et donc, le gouvernement est condamné, en réalité, s'il veut éviter les blocages, vu que maintenant il a commencé à offrir des concessions et aux uns aux autres, à continuer les négociations branche par branche. C'est un vrai sujet parce que cette réforme des retraites est en effet mal goupillée et surtout elle est non financée aujourd'hui. On avait le corps qui estimait le déficit des régimes de retraite entre 8 et 17 milliards d'euros à horizon 2025 par an. Là, chaque cadeau, ça se chiffre en milliards.
Un propos recueilli par Cécilia Arbona, c'est la 22e journée de grève contre cette réforme des retraites et toujours des perturbations dans les transports, un TGV sur deux, un peu moins pour les TER, un transilien sur cinq. Les commerçants touchés par une baisse de chiffre d'affaires peuvent demander un report du paiement des prélèvements fiscaux. Il n'y a pas de risque de pénurie de carburant, dit ce matin le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Et dans ce contexte social tendu, le gouvernement repousse de 3 mois l'entrée en vigueur d'une réforme qui inquiétait les étudiants, les chômeurs et les retraités, notamment le nouveau calcul des allocations logement. Il entrera en vigueur le 1er avril et non le 1er janvier. Ne comptez pas sur Ségolène Royal pour faire profil bas. En novembre, une enquête de la cellule investigation de Radio France pointait l'utilisation des moyens qui lui sont accordés comme ambassadrice des pôles. L'ancienne candidate à la présidentielle se sert-elle notamment de ses collaborateurs pour promouvoir des activités personnelles? Ce sont maintenant deux députés, UDI et En Marche, qui demandent à l'entendre à l'Assemblée sur le même sujet. Réponse de l'ex-ministre, ils ne savent plus quoi inventer pour me faire taire. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Laurence, alors que le camp socialiste est en manque de leader, manifestement cet épisode ne déstabilise pas Ségolène Royal, au contraire.
Elle pourrait même citer Nietzsche, Ségolène Royal. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Lorsque l'information est relayée quelques heures avant le réveillon de Noël, l'ancienne candidate à l'élection présidentielle nous répond aussitôt par texto. Ce que vous avez dit, ils ne savent plus quoi inventer pour me faire taire, avec un petit émoticône mort de rire en illustration. Non, Ségolène Royal ne tremble pas devant cette convocation. Une convocation tout ce qu'il y a de plus ordinaire, reconnaissent d'ailleurs les deux parlementaires. Oui, deux parlementaires, un En Marche, un de l'UDI seulement, dans cette mission qui dépend de la Commission des Affaires étrangères et dont le rôle est d'auditionner les acteurs des pôles. Alors après, c'est sûr, il y a un contexte, les révélations de la cellule d'investigation de Radio France sur l'utilisation des moyens financiers de sa mission d'ambassadrice à des fins de promotion personnelle, ce qu'elle conteste. Quoi qu'il en soit, elle ne risque ni la prison, ni le bannissement de la vie publique. Et à lire ses récents tweets au vitriol contre l'exécutif et la réforme des retraites, il est clair qu'elle pense à après. Dans ce moment où la gauche reprend quelques couleurs mais manque d'une véritable incarnation de leader, il y a sans doute un coup à jouer en vue de 2022.
Vous parliez de la réforme des retraites, la SNCF qui vit des heures difficiles et en plus, le magazine 60 millions de consommateurs lui décerne son cactus d'or 2019 qui récompense l'entreprise qui a le plus gâché la vie des consommateurs, notamment pour le temps d'attente pour avoir un ticket au guichet.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Plus de 8 ans après le déclenchement de la guerre, une nouvelle crise humanitaire est en train de se nouer en Syrie, au nord-ouest du pays. La province d'Idlib est l'une des dernières que le régime n'a pas encore reprise. Depuis avril et plus encore ces derniers jours, il a lancé une nouvelle offensive. Il y a des troupes syriennes au sol, appuyées par des avions russes et pris au piège dans ce cul-de-sac qu'est la région d'Idlib. 4 millions de personnes, des dizaines de milliers ont déjà pris la route de l'Exode à une période de l'année où il fait très froid et où il pleut régulièrement. Le médecin humanitaire Raphaël Pitti était ce matin l'invité de France Inter. Il est allé une 20aine de fois en Syrie.
J'en appelle à tous vos auditeurs pour qu'ils comprennent la situation telle qu'elle peut être pour cette population-là, qui subit ces bombardements, qui ne peut pas être ravitaillée, qui commence à avoir faim, qui pose des problèmes de santé, qui cherche un espace pour pouvoir se protéger. C'est une catastrophe humanitaire qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Depuis le mois d'avril, 64 structures hospitalières ont été détruites. Cette population ne sait pas où aller maintenant et les convois humanitaires eux-mêmes sont l'objet de bombardements. On est dans une véritable stratégie que nous avons vue se déployer maintenant depuis plusieurs années. Il y a dans un premier temps un encerclement, deuxième temps un bombardement systématique de toutes les zones de vie de manière à terroriser la population et on assiste à la troisième partie qui est le siège, c'est-à-dire affamer les populations pour amener à une reddition des rebelles. Mais ces rebelles, maintenant, dans le cul-de-sac que représente Idlib, Personne ne sait où aller, si ce n'est peut-être que de forcer la frontière turque pour pénétrer en Turquie, et c'est le risque de voir 2 millions de personnes peut-être forcer la frontière turque pour rentrer en Turquie.
Et vous pouvez réécouter l'intégralité de cette interview sur franceinter.fr. Le vice-ministre turc des Affaires étrangères était cette semaine à Moscou pour parler de la situation en Syrie, mais aussi de la Libye, car la Turquie l'annonce aujourd'hui, elle va envoyer des troupes en Libye. Le pays, vous savez, est déchiré entre deux pouvoirs, le gouvernement d'union nationale et à l'est de la Libye, les troupes du général Haftar qui cherche à conquérir Tripoli depuis le mois d'avril. Le Parlement turc va donc voter début janvier l'envoi de troupes en soutien au gouvernement d'union nationale. Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour Bruno.
Pourquoi cet intérêt de la Turquie pour la Libye?
Eh bien, officiellement, pour soutenir la légalité internationale, le gouvernement d'union nationale de Fayez el-Sarraj installé à Tripoli étant le seul reconnu par les Nations Unies. En réalité, la Turquie a des intérêts stratégiques dans ce pays situé à un millier de kilomètres de ses côtes. Ainsi, fin novembre, le président Erdogan a signé avec Sarraj un accord donnant à la Turquie des droits sur une zone maritime convoitée par la Grèce en Méditerranée orientale. Une récompense pour le soutien militaire apporté depuis des mois par l'armée turque au gouvernement de Tripoli, notamment avec des drones lancés contre les troupes du général Haftar qui tentent de renverser le régime de Fayez al-Sarraj. La Turquie développe un projet stratégique dans toute la région, du Qatar où l'armée turque est présente, jusqu'en Syrie, en passant par la partie nord de Chypre. La présence turque s'affirme. Cette intervention annoncée est aussi une façon de renforcer le nationalisme turc, la Libye ayant été une province ottomane entre le 16e et le début du 20e siècle. Mais Erdogan prend le risque de créer des tensions avec ses partenaires russes, qui appuient en sous-main l'autre camp, celui du général Haftar. La France, elle, continue de jouer sur les deux tableaux, soutien officiel à Sarraj et aide plus ou moins discrète à Haftar, jugée incontournable.
Selon l'ONU, depuis le début des combats en avril, plus de 1000 personnes sont mortes en Libye et 140 000 ont dû quitter leur maison. Du football anglais et du basket américain, voilà ce que les fans de sport ont à se mettre sous la dent en cette fin d'année où beaucoup de championnats font une pause. Et bien du côté du basket, dans le derby de Los Angeles, les Clippers ont battu les Lakers hier soir. C'était une soirée de gala, Loïc Piala.
Avant le match, Chris exigeait une victoire convaincante des Lakers, une manière de se venger des Clippers qui ont recruté Paul George et Kawhi Leonard l'été dernier. La rivalité est plus intense pour moi, précise-t-il, surtout parce que Paul George et Kawhi Leonard sont de Los Angeles et qu'ils ont préféré aller aux Clippers. Non mais t'es sérieux mec, t'es sérieux? C'est insultant franchement. Avec leurs 16 titres de champion, les Lakers et leurs supporters font parfois preuve d'arrogance. C'est ce qui agace Dario, fan des Clippers venu de Tijuana au Mexique. Les Lakers croient qu'ils sont ce qu'il y a de meilleur à LA, mais les Clippers ont une bonne équipe, signale-t-il. Une équipe qui a gagné le derby 111-106 avec une fois de plus un Kawhi Leonard de gala, 35 points, 12 rebonds et sa placidité légendaire. Je suis juste content d'avoir gagné à l'extérieur aujourd'hui, dit le joueur. Toute cette histoire de bataille de LA, c'est pour les fans et les téléspectateurs. Nous, on n'est pas dans cet état d'esprit. Ça fait déjà 2-0 sur la saison pour les Clippers, toujours derrière les Lakers au classement. Les franchises de LA vont se retrouver encore à deux reprises avant des playoffs potentiellement explosifs en mai, LeBron James. La saison est un marathon, explique-t-il, et parce que c'est un marathon, il y aura toujours d'autres histoires à raconter demain. Prochain face-à-face, le 28 janvier.
Voilà pour ce reportage de Loïc Piala à Los Angeles. Pour le football anglais, le deuxième du championnat reçoit le premier ce soir à 21h, Leicester Liverpool. Dans la série revente des cadeaux après Noël, voici les cartes ou coffrets cadeaux. Si vous souhaitez revendre, c'est votre affaire, on ne le dira pas à celui ou celle qui vous a fait le cadeau. Mais dépêchez-vous car il y a des dates limites. Bonjour Antoine Geoffin.
Bonjour Bruno.
Antoine, vous êtes penché sur ces coffrets et cartes.
Oui, il y a 3 ans, pour son anniversaire, les amis de Paul lui offrent un beau cadeau, un coffret pour des tours de piste sur une voiture de sport dans le sud de la France. Oui, mais...
Le seul souci, c'est que à cette époque, j'étais en classe prépa à Lyon. Les week-ends, j'avais pas de temps libre et les vacances, c'était assez difficile. J'ai pas pu l'utiliser pendant 2 ans. Aujourd'hui encore, je l'ai toujours pas utilisé et je pense qu'il va se périmer. Je me suis absolument pas posé la question de revendre ou d'échanger ce bon. C'était quelque chose qui me faisait plaisir et je pensais sincèrement pouvoir l'utiliser dans les temps impartis.
En revanche, Paul a déjà revendu à son entourage des cartes cadeaux reçues à Noël, des bons d'achat pour une enseigne par exemple, mais pas la Smartbox. Donc pourtant, il est possible de revendre les deux sur Internet, sur Sleeping Money par exemple, mode d'emploi avec son fondateur Arnaud Leplay.
L'inscription est totalement gratuite. Si vous êtes vendeur, vous pouvez déposer une annonce et ensuite les acheteurs qui sont sur la plateforme, les autres membres du site, vont vous faire des propositions d'achat ou vont vous faire des propositions de prix, négocier avec vous le prix. La réduction moyenne est d'environ 10-12%. Un coffret cadeau, la réduction peut aller jusqu'à 35% parce que c'est des produits qui sont plus difficiles à vendre. On aide les vendeurs et les acheteurs et on est là pour les conseiller.
Les conseillers sur les prix qui varient en fonction de la durée de validité du bon ou de l'enseigne. Voilà, j'espère que vous avez pris des notes, Bruno.
Merci beaucoup Antoine. Et si on vous a offert un billet pour un spectacle, il y en a qu'il faut ne revendre en aucun cas. Stéphane Capron.
Surtout en ce moment, faut y aller.
Voilà, vous êtes avec nous comme promis pour un tour de France des spectacles en ces fêtes de fin d'année. On commence par Lyon, théâtre de la Croix-Rousse, Stéphane, où l'on trouve le spectacle le plus original, dites-vous.
Avec une comédie musicale peu connue, The Pajama Game. Jean Lacornori est à la mise en scène, Gérard Lecointe à la direction musicale, l'inconnu en France. Ce spectacle a été l'un des succès de l'année 54 à Broadway sur un sujet de société assez rare pour une comédie musicale. C'est une histoire d'amour qui se déroule dans une manufacture de pyjamas de l'AUA sur fond de lutte sociale.
Ça s'appelle donc The Pajama Game, théâtre de la Croix-Rousse à Lyon. C'est jusqu'à dimanche. Plus classique, Stéphane, à Bordeaux cette fois-ci, revisiter une nouvelle version de Cendrillon de Prokofiev.
Et c'est celle du Birmingham Royal Ballet, chorégraphiée par David Bintley, qui date de 2010, mais cette fois-ci avec les danseurs du ballet de l'Opéra de Bordeaux. Son Cendrillon est totalement immergé dans une atmosphère de conte et de magie à la sauce Jules Verne. On est donc très loin de la version d'origine du Bolshoï, qui date de 1945.
Cendrillon à l'Opéra de Bordeaux, ça c'est jusqu'en 31 décembre. Après Lyon, après Bordeaux, Toulouse, on revisite aussi les classiques.
Avec Casse-Noisette, le chorégraphe de la maison Kader Belherbi qui présente un Casse-Noisette inspiré de l'univers de Méliès. Avec une dose de hip-hop, les danseurs portent des prothèses et des machines qui métamorphosent leur corps. Là aussi, on est très loin des pointes du ballet d'origine.
Casse-Noisette, Capitole de Toulouse jusqu'au 29, c'est dimanche. Marseille maintenant à l'opéra Barbe Bleue.
Là, l'œuvre de Jacques Offenbach, d'après le conte de Perrault, est revisitée par Laurent Pelly avec le ténor Florian Laconie dans le rôle titre de ce serial killer sadique, nuque rasée, tout vêtu de cuir, fantaisie, humour caustique et gags visuels sont au rendez-vous de cette nouvelle version.
Barbe Bleue d'Offenbach jusqu'au 5 janvier, on a un peu plus de temps à l'Opéra de Marseille. Allez Stéphane, on termine à Paris. Funny Girl s'est prolongée à Marigny. Hey gorgeous,
et c'est cette comédie musicale qui avait lancé la carrière de Barbara Streisand oui. En 1964. Elle n'a jamais été rejouée à New York depuis 50 ans et elle est à Paris. Et c'est Christina Bianco qui reprend le rôle mythique de Fanny Bryce. Elle emporte tous les suffrages, elle est rayonnante et c'est l'un des meilleurs spectacles de l'année 2019. Je vous le conseille.
Et même du début de l'année 2020 puisque c'est donc prolongé jusqu'au 7 mars à Paris, Théâtre Marigny. Merci beaucoup Stéphane Capron. Pour ce Tour de France joyeux et encourageant.
La météo avec les fermiers de Loué qui ne font rien. Rien que des œufs fermiers de poules en liberté. Loué, libre par nature.
Sébastien Léas.
Cet après-midi, le ciel est couvert entre le Nord, l'Alsace, la Bourgogne-Franche-Comté et la Haute-Savoie à cause du passage d'une perturbation. Cette perturbation est peu active mais donne tout de même quelques pluies faibles, notamment en Champagne-Ardenne, et un peu de neige au-dessus de 900 mètres sur les Vosges, 1100 mètres sur le Jura et 1300 mètres en Haute-Savoie. Les nuages sont aussi très nombreux en Normandie, dans la Somme et le Pas-de-Calais, et des averses sont possibles. Sur le reste du pays, le temps est plus calme cet après-midi. Les éclaircies sont plutôt timides, de la Bretagne au bassin parisien jusqu'au Poitou et à l'ouest du Massif central, alors que le soleil est prédominant au sud de la Garonne et sur le quart sud-est. Les températures de cet après-midi perdent quelques degrés mais restent nettement au-dessus des valeurs de saison. Les maximales affichent 9 à 18 degrés en général et 4 à 9 degrés sur le quart nord-est.